Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'heure des explications pour le couple Fillon et toujours plus de questions que de réponses au sujet du coronavirus avec des premiers cas ce matin signalés au Koweït et à Bahreïn.
Et à l'heure où l'Italie se barricade, les avions en provenance de Chine continuent d'atterrir en France sans aucun contrôle, affirmé hier au grand jury RTL Marine Le Pen.
Quelle est la cohérence qui consiste à faire revenir des Français de Chine pour les mettre en confinement, en quarantaine, et dans le même temps, laisser tous les jours des avions en provenance de Chine atterrir sans aucun contrôle sur le territoire national.
Sans aucun contrôle, disait donc hier Marine Le Pen sur RTL. On va tout de suite vérifier cela avec cet avion de Pékin qui s'est posé peu après 6 heures ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. Vous avez guetté l'arrivée des passagers. Thomas Dulin, bonjour.
De ce qu'on voit, nous, les passagers qui sortent de l'avion.
Thomas Dulin, bonjour. Est-ce que vous avez remarqué des contrôles à l'arrivée des passagers ?
Alors oui, un contrôle obligatoire des températures à l'arrivée à Roissy, sans compter ceux effectués dans l'avion et au départ de Pékin, et puis distribution de masques que tous les passagers portent au visage. Malgré ça, Michel, employé d'une compagnie aérienne, regarde l'arrivée des voyageurs en provenance de Chine, l'air sceptique.
De ce qu'on voit, nous, les passagers qui sortent de l'avion se retrouvent après en zone internationale et ensuite viennent récupérer leurs bagages, donc se retrouvent au milieu des autres des vols qui arrivent de partout. On se retrouve pris dans un flux de population. On est assez inquiet et on a vraiment l'impression qu'on est un peu délaissé, qu'on est là au milieu de populations à risque. Donc je suis pas certain que le nécessaire soit fait par les autorités aéroportuaires et par le ministère de la Santé, tout simplement.
Pourtant, à la sortie de leur avion, pas de panique, les passagers semblent plutôt sereins. Les mesures mises en place sont satisfaisantes pour Philippe qui revient d'un mois de vacances à l'est de la Chine.
Dans l'aéroport de Pékin, il y a un filtre pour la température avec des médecins, des infirmiers comme ici. On est obligé de porter le masque, c'est fait très sérieusement. On jette son masque usagé, on nous en donne un autre. On prend la température, on fait ce qu'il faut faire, voilà. C'est pas la peine d'affoler les gens non plus. Hein. Les gens continuent à vivre, il faut être prudent pour les autres, même si moi j'ai aucune inquiétude.
Alors Philippe va tout de même essayer de limiter au maximum les contacts avec ses proches durant une dizaine de jours, car comme il le dit, juste au cas où.
Merci Thomas Dulin en direct de Roissy Charles de Gaulle pour RTL. Alors je me tourne vers vous, Odile Pouget, spécialiste santé, bonjour.
Bonjour.
On ne peut pas donc parler d'absence de contrôle, il y a des prises de température, les gens portent des masques, mais est-ce que c'est suffisant ce qu'on entend ?
Écoutez, tout ce qu'on peut faire par ces contrôles, c'est en effet de détecter les personnes qui ont commencé à développer des symptômes, de la toux, des problèmes respiratoires, mais pas celles qui sont en phase d'incubation sans le moindre signe. C'est de toute façon donc mission impossible pour celles-là. On sait que scanner avec des caméras thermiques tous les passagers avant qu'ils ne passent la douane, c'est assez inefficace puisqu'il suffit de prendre un médicament pour faire baisser la fièvre. Alors le dispositif le plus pertinent sur lequel misent les autorités françaises depuis le début, eh bien, c'est d'informer les passagers sur ce qu'il faut faire au moindre doute, c'est-à-dire appeler le 15 et ne pas se rendre aux urgences.
On est face à une menace insaisissable. En Iran, la souche du virus n'est pas la même qu'en Chine. Et en Italie, où le nord du pays vit sous cloche depuis ce week-end, il y a eu 3 morts. On se demande toujours comment le premier patient a pu contracter le virus. Et on n'est pas plus avancé ce matin.
Oui, le mystère reste entier concernant cet homme de 38 ans, habitant de Codogno, en Lombardie. C'est lui qui a contaminé plusieurs personnes de son entourage. Très récemment, cet employé de la multinationale américaine Unilever avait dîné à plusieurs reprises avec un ami de retour d'un voyage en Chine, mais il est aujourd'hui exclu qu'il ait pu être contaminé par ce collègue. Ce dernier, en effet, a passé des tests et selon les autorités sanitaires italiennes, eh bien, il n'a pas développé d'anticorps, ce qui signifie qu'il n'est pas porteur de la maladie. Il reste donc à trouver ce fameux patient zéro.
Merci beaucoup Odile Pouget. Plusieurs cas, les premiers signalés ce matin au Koweït et à Bahreïn. Au Koweït, il s'agit de 3 personnes qui revenaient d'Iran. Le coronavirus fait peser un risque réel sur l'économie mondiale. Voilà ce que dit ce matin le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Il annonce même 30 à 40% de touristes en moins en France en ce début d'année.
À 8h20, nous serons avec Odile Lenay, qui est infectiologue et chef de service à l'hôpital Cochin. La France est-elle vraiment préparée à lutter contre le coronavirus ? Je lui poserai la question.
RTL, il est 8h04.
François Fillon face au juge.
Son procès pour détournement de fonds publics doit s'ouvrir aujourd'hui. Un report de quelques jours en raison de la grève des avocats n'est pas exclu, mais ce ne serait qu'un mince répit pour l'ancien Premier ministre qui va devoir convaincre de la réalité des emplois de sa femme Pénélope, qui elle est poursuivie pour complicité et recel. Une femme très effacée depuis le début, on connaît plus sa crinière blanche et son regard triste que le son de sa voix, Cindy Hubert.
Oui, Pénélope Fillon se prépare depuis plusieurs mois à ce face-à-face avec les juges. Des heures d'entraînement avec son avocat pour trouver le ton juste. Elle qui déteste être au centre des regards. Et l'exercice s'annonce périlleux tant les juges d'instruction n'ont pas été tendres avec la mère de famille. L'enquête retrace le destin d'une femme au foyer qui s'ennuie à la campagne. Une sorte d'Emma Bovary de la Sarthe quand son mari est souvent absent. Pour moi, c'était la châtelaine aux roses dans son manoir. Noir, s'amuse un photographe local interrogé par les policiers qui ignorait totalement les fonctions d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon, tout comme des dizaines d'autres journalistes, préfets de l'époque ou anciens collaborateurs du député. Les juges d'instruction parlent de décennies d'emplois fantômes et ils balayent l'argument de la discrétion cultivée par Pénélope Fillon. Une discrétion, écrivent-ils, qu'il aurait en quelque sorte rendu invisible.
Cindy Hubert, le couple risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Il est poursuivi aux côtés de l'ex-député suppléant de François Fillon, Marc Joulot, qui affirmait la semaine dernière sur RTL que Pénélope Fillon avait bien joué un rôle, mais pas celui à proprement parler d'assistante parlementaire.
Impôts et PV, vous pouvez maintenant payer chez le buraliste. Je suis sûr que ça vous intrigue, voire que ça vous intéresse. Et on vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin, il est 8h06.
Aldi. RTL Matin.
RTL 8h07, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Et donc, payer vos impôts au bureau de tabac, c'est possible à partir de ce matin dans certains départements.
Oui, 10 départements test comme la Haute-Saône, le Vaucluse, le Gard, les Yvelines ou l'Oise. Si l'expérience est concluante, elle sera généralisée dès cet été. Le but est de renforcer l'attractivité des petits commerces. C'est aussi beaucoup plus pratique. Vous pourrez aussi payer vos amendes, vos factures de cantine, d'hôpital ou de crèche. Mais certains y voient un risque pour la confidentialité. Écoutez ce que dit Hélène Fauvel de FO Finances Publiques.
Le problème, il est dans la confidentialité physique au moment où les contribuables vont venir dans un bureau de tabac pour payer leurs impôts en numéraire. En termes de confidentialité, quand vous venez dans un service d'impôts des particuliers, vous avez une relative confidentialité. Les gens qui sont derrière, ils attendent plus loin. Là, en zone rurale, quand les gens viennent, même dans la matinée, vous avez toujours quelqu'un qui boit un café, quelqu'un qui discute avec le patron, tout le monde entend. Et en zone rurale, tout le monde se connaît aussi. Et tout de suite, ah ben tiens, Émile, il vient payer ses impôts en numéraire. Ah, il est peut-être interdit bancaire, Émile. C'est peut-être pour ça qu'il vient payer en numéraire. Vous imaginez le processus ? Et puis bon, concrètement, je dirais, ben c'est notre boulot.
Oui, c'est notre boulot, dit Hélène Fauvel de FO Finances Publiques. Elle répondait à Romain Houg. Ça gronde chez Air France. Les pilotes de sa filiale Hop sont en grève aujourd'hui. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Mais presque tous les vols, ce sont des vols régionaux, seront assurés, affirme la direction. Peu de perturbations à prévoir, donc.
RTL 8h09.
Les États-Unis veulent mettre Julian Assange en prison sur leur sol et ça se joue à partir d'aujourd'hui.
L'activiste à l'origine de la plus importante fuite de documents secrets de l'histoire, l'homme des Wikileaks, a vécu ces dernières années caché à Londres dans les locaux de l'ambassade équatorienne. Il va tenter de combattre ce lundi cette demande d'extradition. Washington l'accuse d'espionnage et n'a jamais digéré la publication il y a 10 ans de documents ultra confidentiels.
Mais au fait, ces révélations de Wikileaks ont-elles été utiles? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour.
Le site Wikileaks a-t-il aider à la transparence?
Ah oui, clairement oui, les citoyens ont davantage compris comment fonctionnaient les écoutes, la diplomatie non officielle. Wikileaks a révélé en 2010 les bavures de l'armée de la coalition en Afghanistan, en Irak, la mort de milliers de civils, les actes de torture sur les prisonniers, mais aussi en 2015, souvenez-vous, les écoutes des présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande, par l'Agence nationale de sécurité américaine, mais encore la publication des mails du Parti démocrate américain en 2016. Maintenant, ce n'est pas pour ça que les pays ont arrêté l'espionnage. Ne soyons pas naïfs.
Mais Wikileaks continue aujourd'hui, même sans Julian Assange.
Ah oui, vous pouvez toujours regarder leurs infos sur leur site. Et puis, des lanceurs d'alerte, il y en a beaucoup maintenant. De l'Américain Edward Snowden à des dizaines de hackers, cela a donné les Panama Papers, les révélations sur l'évasion fiscale via 214 000 sociétés offshore de responsables politiques et personnalités comme Vladimir Poutine ou Lionel Messi, ou encore les Football Leaks, cette fuite massive de données prouvant la fraude fiscale dans le football mondial.
La question de 8h avec Bénédicte Tassard.
Au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé réélu dès le premier tour avec 72% des voix pour un quatrième mandat. Mais son rival, le candidat de l'opposition, crie lui aussi victoire. Il a pourtant obtenu 18%. D'après les résultats officiels, Faure Gnassingbé a succédé à son père en 2005. Une vie entière consacrée au journalisme. Hervé Bourges est mort à 86 ans. Il avait dirigé successivement TF1, France 2, France 3, RFI. Il avait aussi été le patron du CSA jusqu'en 2001.
RTL 8h10.
Le réveil est sans doute douloureux pour un certain nombre de personnes aujourd'hui à Dunkerque.
Oui, au lendemain du coup d'envoi du carnaval, tradition vieille de 4 siècles qui trouve son origine dans la fête qu'on organisait pour les pêcheurs qui partaient 6 mois en mer. Un moment festif et arrosé, marqué par l'incontournable jetée de harengs du balcon de la mairie. Notre reporter Antoine Decarne a survécu. Voici son reportage.
Qu'on libère le hareng, c'est ce que réclament d'une seule voix les dizaines de milliers de personnes massées au pied de l'hôtel de ville, jusqu'à ce que les fenêtres s'ouvrent. La foule est en délire. Sur le balcon, le maire jette alors le premier des 100 kilos de hareng sort sous vide qui sont distribués. Il est ensuite rejoint par des carnavaleux comme Florent et André qui ont gagné le droit de vivre le rêve de tout Dunkerquois.
Regarde-moi ce monde là. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Un petit hareng. Eh ben on va le jeter le petit hareng. On va le jeter.
Impressionnant, non?
Magnifique. C'est le plus beau vu d'en haut.
Je te dis, je peux mourir tranquille, moi. C'est bon, c'est fini, là. J'ai vécu ce qu'il fallait vivre ici, pendant le carnaval.
Et sur la place de la mairie, tout en bas, Marie, fourrure sur le dos et chapeau fleuri vissé sur la tête, a réussi à attraper le précieux sésame.
C'est le saint graal du carnaval de Dunkerque, hein. Il faut avoir son hareng. Si on n'a pas son hareng, le carnaval, il n'est pas réussi, hein. Mais c'est que le départ, hein. Ça va durer 3 mois.
Mais avant cela, il faut profiter du poisson.
Un bisou à mon hareng. Voilà,
un petit bisou à hareng. C'est la tradition.
Un petit bisou à Rennes, c'était le reportage d'Antoine Decarne à Dunkerque. En football, à 2 semaines et demie du match retour contre Dortmund en Ligue des Champions, le PSG l'a emporté contre Bordeaux hier soir, 4-3, mais sans vraiment rassurer, son capitaine Thiago Silva est sorti pour blessure. On notera également la victoire de Rennes, 2-1 contre Nîmes et 1-1 entre Saint-Etienne et Reims.
L'histoire du jour.
Un homme arrêté pour excès de vitesse dans le Lot-et-Garonne, son explication n'a pas convaincu les gendarmes. Il fonçait à 142 km/h sur une départementale limitée à 80. Il s'est justifié en disant qu'il souffrait d'un TOC qui l'obligeait à rouler à 110 pour avoir l'aiguille du compteur dans le sens de la direction de marche. Et s'il avait allègrement dépassé les 110, c'est parce qu'il ne faisait pas attention. Vous n'y comprenez rien, les gendarmes non plus. Ils lui ont retiré son permis et c'est peut-être mieux pour tout le monde.
Et c'était donc le journal de Jérôme Florin.
RTL.